ma foi, j'y crois. Ma foi, j'y crois.
Ma foi, j'y crois.
Une émission de Benoît Petit.
Ce soir, avec Monsieur Enrique Fraga. Bonsoir, Enrique.
Bonsoir.
Nous nous sommes connus à l'université. Vous avez été professeur d'espagnol.
Oui, maître de conférence. Oui.
Et puis, vous avez été chargé aussi de la mission handicap à l'université.
Oui.
Et vous êtes actuellement président de l'association Le Journal des Habitants de Raignerie-Miroir.
Exactement.
Mais surtout, ce qui m'a intéressé, on l'a appris un peu plus tard, parce que nous nous connaissons depuis assez longtemps, c'est que vous êtes né à Compostelle.
Oui, je suis né à Saint-Jacques-de-Compostelle il y a 71 ans.
Voilà, mais
et
en même temps...
J'ai fait le chemin de Saint-Jacques à l'envers. C'est-à-dire...
Oui. Parce que vous étiez... en fait, opposant au régime de Franco, et vous avez été donc exilé politique, si on peut dire, venu à Toulouse, dans des circonstances assez dramatiques, pour le dire.
Oui, en fait, j'étais étudiant et j'ai participé à des manifestations pour la liberté, la démocratie en Espagne, et ce qui était strictement interdit. Et donc, on m'avait arrêté déjà une fois pour manifestation illégale, comme ils disaient, puis association illégale, et puis j'ai eu peur parce qu'ils m'ont demandé 5 ans de prison, de manifestations, réunions, associations illégales, distribuer de propagande contre Franco. Et donc, je passais les Pyrénées, je suis venu en France en 71, et j'étais très, très reconnaissant à l'accueil que j'ai eu en France. Contrairement aux réfugiés de la guerre qui ont souffert parce qu'ils ont été mis en camp de concentration, on peut comprendre, il y a l'époque, ils étaient...
En camp de rétention.
Oui, on appelait même de concentration, c'est le terme qui était... Il y a une grande discussion sur ça. Un demi-million qui sont arrivés, et je comprends que la France était un peu affolée de voir tous ces réfugiés arriver, mais moi, en 71, quand je suis arrivé, j'étais pas seul, on a été très très bien accueillis. J'ai eu une bourse d'études, les statuts de réfugiés politiques.
C'est pour ça que votre conception de la laïcité française est assez ouverte et compréhensible par rapport aux blessures de l'Espagne, qui explique aussi peut-être un peu, mais nous reviendrons sur ces questions. Vous dites, moi je suis athée, ce qui s'est passé en Espagne dans cette guerre civile entre ceux qui étaient du côté de l'Église et ceux qui étaient du côté du pouvoir, eh bien, ont marqué non seulement les mentalités, mais encore aujourd'hui, ça laisse des blessures. Alors que vous me disiez qu'il y avait aussi les franciscains, il y avait aussi à l'intérieur de l'Église catholique un certain nombre de personnes plus ouvertes ou plus critiques envers l'institution.
Oui. En fait, j'étais baptisé, je suis de tradition catholique, mais je suis devenu athée. Surtout, la prise de conscience politique m'a amené à comprendre que Franco a réussi en partie grâce au soutien de l'Église catholique.
De l'institution.
De l'institution.
De l'autorité.
L'autorité catholique. Et Franco appelait son mouvement un national catholicisme. C'était la seule religion qui était autorisée en Espagne. Il y a commencé à avoir une ouverture vers les années 60. De permettre, autoriser d'autres religions, mais pas reconnues officiellement. Et donc, c'est ça qui a fait... Mais une grande rupture dans l'Église, ça a été le moment du Concile Vatican II. À ce moment-là, il y a beaucoup de prêtres, et même, je disais, de franciscains, tu as dit tout à l'heure, vous avez dit tout à l'heure, qui permettaient, je ne sais pas si c'était conscient, mais qui permettaient que les jeunes éditent dans leurs locaux la propagande avec laquelle on attaquait le franquisme. Parce que c'était très difficile.
Et nous avons reçu ici Madame Thomas, qui nous a parlé comme syndicaliste, que quand elle est allée en Espagne représenter les syndicats CFDT, elle était en fait invitée par le patronat pour parler de nomination du pape François. Qu'il y avait un changement assez fort des mentalités. Mmh. Et nous avons ici à Radio Présence un certain nombre de personnes qui évoquent l'Espagne des trois cultures.
Oui.
L'Espagne de bien avant, bien sûr, Franco, mais oui. L'Andalousie et puis Compostelle. Nous avons aussi toute une série de personnes qui font le chemin oui. de Compostelle. Et maintenant, ce n'est plus Jacques Matamor, celui qui tue les oui. mahométans, mais c'est Saint Jacques qui est appelé à faire la grande paix en Europe,
oui, oui.
avec Jean-Paul II qui organise aussi beaucoup de voyages. Mais nous nous éloignons de votre travail comme oui. professeur d'espagnol parce que nous nous sommes, j'allais dire, affrontés gentiment oui. et, au conseil d'administration et puis au niveau des syndicats. Parce qu'à un moment donné, il a fallu, et ça c'était vos convictions, ouais. dire que certains syndicats étaient peut-être un peu trop, je mets des guillemets, collaborationnistes, ou n'allaient pas dans le sens qui était ouais. celui de vos convictions. Hein, ma foi, oui, j'y crois.
Ouais. Dans les réformes des années 80, et moi j'étais militant de la CFDT pendant, avec vous pendant une vingtaine d'années.
C'est ça, oui, oui.
Et après, j'ai quitté avec d'autres la CFDT à l'époque de Nicole Nota parce qu'elle n'était pas assez, de mon point de vue, assez radicale dans les revendications pour maintenir une université libre, pour obtenir des postes, des moyens. C'était une lutte syndicale.
C'est ça, comme actuellement aussi, vous avez des positions, bon, peut-être nous ne les approfondirons pas parce que ce n'est pas une émission politique, mais actuellement la sécurité sociale ou le soutien aux personnes handicapées ou aux enfants trisomiques, que vous connaissez très bien de oui. l'intérieur, eh bien il y a un enjeu de société pour savoir c'est jusqu'où va la solidarité ? Est-ce que c'est à l'État ou est-ce que c'est à un certain nombre d'associations ouais. de prendre en charge les difficultés physiques ou psychologiques de certaines personnes ?
Oui, on est justement dans la semaine d'intégration dans les milieux du travail. Et c'est triste de voir qu'il y a beaucoup d'entreprises qui préfèrent payer une contribution ou une amende ou plutôt qu'engager de personnes handicapées, parce qu'ils ont l'obligation, à partir d'un certain nombre, des 6% de personnel à situation de handicap. Moi, je suis le papa de deux enfants. Il y en a un, Jérémy, l'aîné, qui est trisomique et qui fait partie, comme moi, de l'association Trisomie 21 et qui travaille à la mairie de Toulouse à temps partiel et dont je me vends pour le travail de personnes à situation de handicap. Je fais partie aussi d'une association qui s'appelle Les Guiches, qui c'est le groupement interassociatif pour la scolarisation et handicap qui organise justement le vendredi 26 novembre une grande journée, enfin une,
oui, une rencontre
sur la scolarisation, de la scolarisation à l'emploi, l'orientation inclusive, et qui est présidée par Catherine Coussergue, le docteur Catherine Coussergue, qui est une personne que nous aimons beaucoup à Toulouse, très militante pour la cause des personnes en situation de handicap.
Il faut s'engager au niveau des institutions et pas seulement au niveau d'une réflexion personnelle dans une charité qui pourrait peut-être ne pas être incarnée dans des relations sociales efficaces. Donc c'est tout le débat hein, entre, on va dire, le bon samaritain, mais qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui ? Cette image du bon samaritain, à l'opposé, on va dire, mais il y a des lobbies, l'homme est un loup pour l'homme, et ce sont des conflits parce qu'on manque d'argent, mais surtout en ces périodes d'après-Covid, ou peut-être s'il y aura une autre vague, eh bien, nous sommes face à cette difficulté de vivre la solidarité, une solidarité politique. Qu'est-ce que le politique ou qu'est-ce que la politique ?
Oui, oui, c'est la reconnaissance du citoyen. Reconnaître qu'une personne en situation de handicap, soit handicap physique, soit handicap mental, soit handicap passager, a les droits de voter, d'avoir un travail, de vivre et d'avoir un minimum pour pouvoir vivre. Et là, justement, une des questions qui sont en jeu maintenant, c'est le fait qu'on compte dans le revenu d'un couple et dont la personne qui est en situation de handicap peut voir ses revenus diminuer si son compagnon ou c'est la personne qui vit avec elle a des revenus bien plus importants que le sien. Et là, on se bat pour que, justement, on puisse respecter, ce qui était jusqu'à maintenant le cas, la location d'adultes handicapés soit respectée pour les personnes en situation de handicap, indépendantes du conjoint ou indépendantes des parents, ou indépendantes de, pour qu'elles puissent vivre sa propre vie indépendante.
Surtout que souvent, ce sont des personnes qui n'ont pas de revenus réguliers, qui font des petits boulots, et après, on leur redemande de rembourser un trop-perçu parce qu'à un moment donné, ils ont eu un travail et puis ils n'ont pas pu s'y tenir parce qu'ils sont instables. Et il faut que la société reconnaisse. Mais alors, certains vont dire, oui, mais ils sont paresseux, ils n'arrivent pas à se tenir, c'est leur maladie.
Non, mais les entreprises doivent faire un effort pour intégrer, parce qu'il y a des petites tâches dans l'entreprise. On oublie souvent, il faut distribuer les courriers. Il y a des tâches qui peuvent être faites, je pense, au handicap mental, parce qu'il peut y avoir des personnes en situation de handicap qui peuvent être ingénieurs, médecins, et avoir tout type de professions. Mais pour nous, dans Trisomie 21 et au Guiche, on a des difficultés avec les personnes en situation de handicap mental, en particulier, c'est elles qui ont qui rencontrent le plus de difficultés pour trouver un travail. Le double de chômage entre les personnes en situation de handicap. Par rapport à la moyenne nationale, les personnes en situation de handicap sont les doubles à être en situation de chômage.
Vous avez un lien de cette association que vous pouvez redire, parce que si certains parents nous entendent...
Le Guiche, c'est gish.31@laposte.net.
Oui, merci Enrique.
Et là, ça réunit une vingtaine d'associations qui va de la trisomie 21, dyslexique, l'autisme, les enfants sourds. Enfin, je ne vais pas lire toute la liste,
bien
qui
sûr.
Est énorme.
Il y a aussi des associations de parents, de personnes qui sont, par exemple, des enfants ou des conjoints ou des grands-parents qui sont vraiment en grande difficulté. Ouais. Et parfois, la personne qui est en charge de ces personnes, de sa famille, ne peut plus tenir, n'en peut plus. Alors, moi, je vais vous donner une autre association que vous connaissez pas, mais c'est le relais Lumière Espérance, qui pense que les rencontres chrétiennes de familles et d'amis de personnes souffrant de maladies psychiques peuvent être encouragées, et entre autres par la prière. Mais ça, c'est un débat que nous aurons peut-être tout à l'heure, parce que nous sommes dans une société laïque, où il y a des associations qui se disent neutres d'un point de vue confessionnel, et puis il y a des associations qui pensent que Dieu peut nous aider. Mais d'abord, nous allons écouter le chant que vous nous avez apporté et qui nous ramène à votre enfance.
Oui, c'est un chant de musique de Carlos Núñez, qui est un joueur de cornemuse galicien. Et la musique s'appelle Gaiteiros da Noite, et le joueur de cornemuse de la nuit.
Vous nous la traduirez tout à l'heure.
Ma foi, j'y crois, avec Benoît Petit.
Et aujourd'hui, avec M. Enrique Fraga, vous êtes d'origine espagnole, né à Compostelle. Et pour ceux qui prennent l'émission en cours de route, nous avons évoqué votre départ de l'Espagne comme réfugié espagnol, l'accueil en France et vos activités d'abord à l'Université du Mirail comme professeur d'espagnol et aussi chargé de la mission de handicap à Jean Jaurès.
Oui, c'est-à-dire la naissance de mon enfant Jérémy m'a fait découvrir le monde du handicap. Et du coup,
Fallait être moins seul.
Voilà. Et du coup, quand on m'a proposé la mission handicap à l'université, j'ai accepté volontiers. Et on a au Mirail près de 700 étudiants en situation de handicap. On est en train de réussir l'intégration des étudiants en situation d'autisme. On est en train de se battre pour la traduction en langue des signes avec les étudiants sourds, pour faciliter le travail des étudiants non-voyants. Et je trouve que c'est magnifique, insuffisant, mais magnifique l'effort qui est fait à l'université. En ce moment, la personne qui a pris la suite, c'est Pascal Chiron, une collègue de lettres modernes, qui a pris la mission handicap. Je trouve qu'il y a beaucoup à faire, mais que on est un peu, je dirais pas modèle, mais qu'on est en situation d'améliorer vraiment l'accueil des étudiants en situation de handicap au Mirail. Il faut rappeler qu'au Mirail, il y a 32 000 étudiants à peu près, je ne me rappelle pas maintenant, je suis à la retraite, mais 600 ou 800, c'est un bon pourcentage.
Alors, on ne peut pas dire que vous êtes un libéral qui dise on ne peut pas compter sur l'État parce qu'il faut des institutions. Mmh. Et en même temps, les notions de droite et de gauche à ce niveau-là, au niveau politique, n'ont peut-être pas grand sens parce qu'il faut serrer les coudes. Mmh. Il faut être ensemble pour faire avancer les dossiers et ça prend du temps, n'est-ce pas? Mmh. Et c'est un autre dossier que vous prenez, c'est celui de la solidarité au niveau du quartier. Parce que vous êtes très engagé dans Rainerie Miroir.
Voilà. C'est une association qui a été fondée il y a 7 ans et qui édite un journal du quartier qui donne la parole aux habitants du quartier. Et nous sommes fiers de notre petit journal.
Mais c'est important au niveau
Rainerie
local.
Miroir,
oui.
qui est édité grâce à l'aide de la DRAC, l'aide au journal de proximité, à l'aide de la mairie de Toulouse, qui nous donne une participation aussi.
Parce que c'est un numéro qui est gratuit.
Oui,
Vous m'avez apporté le numéro 34 d'automne 2021. Mm-hmm. Et c'est impressionnant de voir la qualité des images. Et puis, ça suppose toute une mobilisation des habitants qui ont des choses à dire.
Oui, voilà. Ça nous fait plaisir de recevoir des poésies. Et puis, c'est vraiment multiculturel, c'est-à-dire que nous sommes aussi bien en rapport avec l'association Théocet, qui est un peu des traditions protestantes, que les scouts musulmans, que des gens, on a des adhérents. Là, dans ces numéros, il y a un article d'une adhérente qui s'appelle Odette Pru, qui écrit un article justement sur la paroisse de
un projet pastoral. La paroisse catholique.
De la reine. C'est pas fréquent qu'on écrive des articles en rapport avec des questions religieuses, mais lorsque nous sentons les porte-parole des habitants, lorsqu'un habitant nous envoie une poésie, un article qui lui tient à cœur, nous les publions. On nous reproche aussi parfois.
C'est une laïcité bien comprise. Ce n'est pas du prosélytisme, mais c'est de donner un témoignage, comme vous venez avec votre cœur, avec votre expérience, de la même manière qu'il y a des personnes qui vont mettre un petit mot d'humeur, la santé en jeu, avec aussi des moments en disant « mais non, ça ne peut plus faire, il faut, taper des points sur la table », et puis d'autres vont simplement dire « bonne, mauvaise pente, nous faisons à la fois l'histoire du mur du château », des réalisations concrètes locales. Je vois votre sourire, c'est un engagement vraiment. Ça prend beaucoup de temps, la mise en page.
Oui.
On retrouve votre expérience de syndicaliste.
Oui, il y a Annie Conter, la directrice du journal, c'est une collègue qui est enseignante retraitée aussi. C'est elle qui fait un effort énorme pour la mise en page. Mais on a des groupes de jeunes aussi de la FEV.
La relève.
Des capseurs qui nous aident chaque année. Il y a un groupe de jeunes qui viennent nous aider pour ce travail.
Et puis peut-être une réunion aussi où les personnes savent qu'elles pourront rencontrer d'autres personnes.
Oui, on se voit le premier et le troisième mercredi de chaque mois et pour l'élaboration du journal. Puis on a édité, on fait un travail aussi d'écologie, de défense du jardin de la Rainerie, du lac de la Rainerie. On est en discussion avec la mairie pour les travaux qui sont faits, pour préserver la nature, les sabres. Mais tout ça, on le fait aussi en respectant les principes égalité hommes et femmes, les principes de la laïcité, les principes de liberté d'expression. On nous reproche parfois qu'on donne la parole à des habitants qui sont contre les démolitions des bâtiments du Mirail. Nous ne jugeons pas, nous ne permettons aux gens d'exprimer librement leurs paroles à travers notre journal.
Et puis une ouverture sur l'écologie, l'environnement, ne pas gaspiller. C'est pour ça Exactement, que vous avez apporté un petit écureuil. Ça, c'est la poésie. C'est pas seulement la musique qui, on va dire, adoucit les mœurs et qui permet de se rencontrer avec toutes sortes de rythmes, mais aussi, eh bien, d'être attentif à ces petits signes de la nature. Alors, certains voient Dieu dans la nature et puis d'autres disent ben non, nous sommes là dans l'intimité de chaque être. Il y a certains se tournent vers peut-être un au-delà, vers la prière, et puis d'autres se tournent vers l'autre, qu'il soit musulman, athée ou qu'il soit d'autres convictions que moi. C'est aussi la marche qui a eu lieu il y a quelques semaines dans Toulouse pour mieux se connaître. Osons la rencontre. Et c'est aussi ce que fait cette radio qui est diffusée dans beaucoup de départements pour faire connaître des expériences. Parce que ce n'est pas seulement Toulouse, mais c'est aussi, c'est pas seulement le quartier, mais c'est aussi une solidarité qui dépasse les frontières.
Je suis content de vivre au quartier de la Rainerie. C'est un quartier difficile, il y a des problèmes, il y a des violences, il y a eu des meurtres. Mais quand on met dans une balance les positifs et les négatifs, c'est positif. Et pendant la période du Covid, il y a un écureuil qui venait du parc. On lui déposait des noix dans la fenêtre. Mon fils, qui était en situation de handicap, était très très content de les voir tous les matins venir manger sa petite noix ou sa noisette dans la fenêtre de notre. C'est pour ça que j'ai pris cette photo.
Mais c'est formidable.
Oui, en plein Toulouse, je pensais qu'il y a des écureuils qui vivent à Toulouse et qui s'approchent des habitants.
Et pas seulement les rats au fond de...
Oui.
Et vous avez apporté aussi un poème, celui de Machado.
Oui, juste parce que c'est quelque chose qui m'était à cœur. Machado est un grand poète espagnol qui est mort à Collioure en 1930, à la fin de la guerre, en 1937. Et il a, 39, pardon, il a écrit un poème dont il y a deux vers qui me tiennent à cœur, que vous connaissez tous, qui s'appelle, je vais les dire en espagnol, Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Promeneur, il n'y a pas de chemin, on fait le chemin en marchant.
Oui, c'est une phrase qui est bien connue. Le chemin, ce n'est pas seulement vers Compostelle ou venant de Compostelle comme réfugié politique. C'est aussi, je voudrais dire, qu'un certain nombre de médecins qui ont fui Franco et le fascisme sont venus en France et ont apporté une manière radicalement différente de considérer les soins aux personnes que l'on disait folles ou sans raison. Et je sais, le musée des arts modernes à Lausanne, où sont mises, musée des arts bruts, faire de la peinture ou bien chanter ou dire des poèmes, c'est autre chose que d'avoir des électrochocs ou des douches froides pour soigner des personnes qui sont en grande souffrance. Et ça, c'est l'expérience que vous nous apportez, de dire qu'il y a un combat entre ceux qui croient au ciel et ceux qui n'y croient pas, ou qui pensent que nos images de Dieu, eh bien, c'est parfois des idoles contre lesquelles il faut se battre, mais on ne se bat pas contre les moulins à vent, on se bat pour une solidarité, et je crois que c'est le mot que vous venez de nous apporter. Ce signe à travers le syndicat, à travers les associations. Et vous avez le mot de la fin, Enrique.
Rien, merci. Et continuons les combats pour la laïcité, la liberté d'expression, la liberté des presses, la liberté d'association, la liberté des réunions. C'est magnifique, c'est ça
que
la démocratie.
La fraternité ou la sororité ne soit pas qu'un mythe ou un idéal, mais soit vraiment quelque chose qui s'incarne concrètement tous les jours. Merci bien, Enrique.
De rien. Merci à vous.